les jardinières.
On profite des premières heures fraîches de la journée pour s'occuper de son potager. Soyez les bienvenus chez les jardinières. Bonjour Raphaël.
La fraîcheur, je ne sais pas où vous la trouvez, Mylène. Bonjour tout le monde.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Fabrice Rondet. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Fabrice Rondet, vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui.
Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Nous vivons un mois de mai un peu inhabituel, les températures s'affolent et grimpent. Alors Fabrice, est-ce que de telles conditions météorologiques posent un problème à la végétation ou est-ce qu'elles s'adaptent sans problème ?
Alors pour l'instant, ça va encore au niveau de la végétation, tout se passe bien, les gazons poussent bien. On voit que dans les cultures aussi, au niveau agricole, tout pousse bien. On voit que les plantes, elles ne souffrent pas trop d'une façon générale. Pour ce qui est des jardins, ben, on lance les jardins dans les semis, dans les plantations. Donc ben, là, on apporte un petit peu d'eau et puis ça se passe bien aussi. Maintenant, il y a juste un petit truc qu'il faut qu'on regarde pour un petit peu surveiller. C'est ce qui est au niveau des attaques de pucerons plus généralement sur des plantes. Et puis à ce niveau-là, on a des explosions chez certaines personnes de colonies de pucerons. Mais à part ça, le rapport de l'humidité avec la chaleur qu'on a encore en ce début de saison, ça, c'est plutôt bénéfique.
Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pucerons ?
Mais il y a plusieurs moyens de lutte. On a des moyens de lutte qui sont éco-responsables quand même, avec des produits adaptés qui nuisent pas à l'environnement. Et on a des moyens aussi où c'est qu'on peut mettre des pièges. Et on a des moyens aussi où c'est que certaines personnes vont combattre avec des produits. On a des produits qui sont issus vraiment ciblés contre le puceron, qui sont des aphicides. Et puis après, on a des produits qu'il faudrait peut-être plutôt oublier, qui détruisent un petit peu tous les insectes. Donc, veillez à choisir des produits bien adaptés pour avoir le moins d'impact sur l'entourage.
Fabrice, j'ai lu dans la presse qu'il fallait faire attention un peu à la sécheresse. Est-ce que pour nos jardiniers amateurs, il faut avoir un œil particulier à certaines choses ?
Oui, alors on peut faire attention... Chez nous, au niveau du potager, par exemple, en faisant des cultures qui veilleront à économiser un petit peu l'eau, on peut aussi veiller à récupérer l'eau de nos toits pour des orages comme hier, où c'est que ça peut être important sur un pan de toit de récupérer vite des quantités de l'eau qui peuvent nous aider à faire pas seulement des économies, mais avoir une eau plus propre, plus douce pour nos plantes.
Jusqu'à 8h, Fabrice, vous allez répondre aux questions jardinage de nos auditeurs. Et pour les poser, on vous rappelle comment ça fonctionne. Vous avez trois possibilités pour le faire. Par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire par le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières. Ou par SMS, vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question que vous nous envoyez au 939.
Dans la suite des jardinières, Fabrice Rondet nous expliquera comment mettre en terre ses plantons, histoire d'avoir de belles récoltes le moment venu.
7h, 8h, les jardinières.
Il est temps de mettre vos semis en terre ou si vous n'avez pas eu le temps de les préparer, rendez-vous dans les jardineries pour vous en procurer. Alors Fabrice, le choix des plantons est vaste. Est-ce qu'avant d'aller acheter, on fait un plan de son jardin histoire de ne pas revenir avec 600 plantons et plus savoir quoi en faire ?
Alors effectivement, on fait un plan du jardin qui va aboutir avec plusieurs choses. Il y a déjà la partie gourmande, traditionnelle, qu'on a l'habitude de faire, où c'est qu'on est sûr de pouvoir faire nos récoltes. Après, il y a une partie peut-être découverte, qu'on aura entendu parler, ou alors qu'un copain nous aura donné généreusement quelques plantons pour partir vers de nouvelles découvertes, mais que ce soit aussi bien dans le potager que culinaire, bien sûr. Et puis après, par rapport à ça, on va tenir compte un peu des distances de plantation pour que tout rentre dans notre potager. Et après, à partir de là, on va établir une liste et puis trancher et puis aller faire nos achats.
Justement, cette liste, elle est prête. Fabrice, on part en jardinerie. Comment on peut repérer un bon planton et surtout, à quoi faut-il faire attention lors de son achat ?
Ben, je pense, comme vous l'avez dit en début d'émission, le truc qu'il faut faire attention maintenant, c'est plutôt les éventuels coups de chaud. Quoique les revendeurs sont bien équipés, puis font attention et puis maîtrisent bien l'histoire. Mais on peut toujours se faire surprendre, peut-être à la sortie d'un week-end ou un truc comme ça, où c'est qu'on peut avoir des plantes qui ont pris un coup de chaud et qui sont un petit peu plus faibles. Et, donc bien regarder que les plantes soient bien fortes, bien trapues, qu'elles soient peut-être homogènes si c'est une barquette de 6, 12 ou comme ça, histoire qu'on ait une belle petite série. Puis regardez aussi que les feuilles soient bien dressées, pas tombent le long de la tige ou comme ça, qui donnent des signes de faiblesse. De ne pas avoir de feuilles jaunes, de choses comme ça. Et puis après, si on a la possibilité de regarder, on peut retourner le pot, on voit des petites racines dépassées, donc on sait qu'on a quelque chose aussi avec un système racinaire qui est fort.
Alors, on a fait ces achats, on rentre à la maison avec ces plantons. Est-ce qu'il faut les planter tout de suite ou on peut attendre quelques jours ?
Ben après, ça dépend un petit peu comment on maîtrise l'histoire. C'est vrai que planter tout de suite, ça peut avoir un avantage, c'est au niveau du suivi de l'arrosage. Donc, c'est vrai que ça donne moins de boulot, parce que maintenant, avec des plantons, si on les met dans un petit couvert, dans un châssis ou dans une serre, un truc comme ça, ou même à l'ombre, on peut avoir jusqu'à 2 arrosages par jour, alors que mis en pleine terre, un arrosage pourrait suffire. Donc, on peut avoir un gain de temps. Puis, s'ils sont mis directement en terre, ben, ils vont prendre racine aussi tout de suite. Donc, on gagne du temps.
Justement, Fabrice, c'est à quel moment idéal qu'on peut mettre un planton en terre ? Est-ce qu'on doit regarder la météo ? Est-ce qu'on va plutôt le matin, plutôt le soir ?
Ben, bien sûr, on va dire que c'est par rapport à notre disponibilité. C'est vrai que le soir, c'est pas mal parce que pour nous, déjà, ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'être tout le temps dehors, c'est plus facile d'affronter les températures qui sont en baisse. Donc, 3-4 degrés de moins, c'est toujours plus plaisant. Et puis, pour le planton aussi, on le met en place. On peut prendre son temps, réfléchir. Et puis après, l'arroser bien comme il faut pour bien détremper la terre. Pour que pendant la nuit, ben, il puisse bien pomper, bien se mettre en place. Et puis comme ça, le lendemain, ben, tout de suite, il va commencer de démarrer, vraiment de s'enraciner, de s'ancrer.
Est-ce qu'on fait un dernier contrôle du planton avant de le mettre en terre ?
Oui, alors on va regarder si pendant le transport on n'aurait pas cassé une tige, s'il n'y a pas des feuilles aussi qui sont un petit peu déchirées ou comme ça. On peut nettoyer la plante en enlevant peut-être des feuilles qui sont jaunes ou qui sont pas très bien accrochées parce qu'elles ont été blessées. Et puis après, ben, on peut faire la plantation.
Est-ce qu'on peut déjà détecter une éventuelle maladie avant de le planter ou au moment de le mettre en terre ?
En général, non, parce que ce qui sort des points de vente sont toujours soumis à des contrôles et on a toujours des plants de première qualité. Donc je pense que ce serait vraiment un coup de malchance que d'avoir quelque chose qui ne soit pas sain dans les mains.
Merci beaucoup Fabrice. Dans la suite des jardinières, vous allez nous expliquer comment justement planter ces plantons dans la terre.
7h, 8h, les jardinières.
Les plantons sont à l'honneur ce matin chez les jardinières et pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Fabrice, c'est le jour J, toutes les conditions sont bonnes pour mettre nos plantons en terre. Mais avant, eh bien, il faut aussi préparer la terre qui va les accueillir.
Oui, c'est juste. Alors, on a 2-3 petites choses qu'on peut faire pour faciliter la tâche au départ. Déjà, c'est peut-être mouiller juste un petit peu le planton pour que la terre de la motte soit un peu malléable, sorte bien du pot. Pas qu'elle soit trop sèche non plus parce que c'est pas bien, ça fait tout de suite plus difficile pour la reprise. Et puis pas trop détremper aussi pour pas qu'elle se casse dès qu'on fait une prise en main. Après, ben, le travail du sol, il se sera fait pour avoir une terre très meuble en profondeur pour que la racine puisse s'ancrer, aller prospérer le plus rapidement possible. Et puis pour le volume en fait du trou que l'on va faire pour le planton, il équivaut à peu près à 2 fois grosso modo la grosseur de la motte du planton qu'on va mettre en terre. On va recouvrir cette motte à peu près d'un demi centimètre, un petit centimètre de terre qu'on va mettre en place, qui avec l'arrosage va se mettre gentiment de chaque côté. Il y a juste certaines plantes, comme par exemple les tomates, qu'on pourra enterrer un peu plus profondément, parce que chaque petit poil qu'on a le long de la tige va émettre une racine, donc on va augmenter le nombre de racines pour un pied. Donc il y a des petites choses, des petites subtilités comme ça, mais autrement la règle elle est pratiquement toujours la même, un trou 1,5-2 fois plus grand que la motte pour avoir un démarrage rapide.
Donc, si je vous comprends bien, Fabrice, on tasse pas la terre, hein, on laisse bien cette petite motte et on la laisse bien respirer.
Alors on tasse légèrement avec les doigts, mais d'une façon très légère, juste pour en fait remettre la botte droite. Et puis histoire que à l'arrosage, le plant aussi il va s'y passer, si on a une terre très légère. Donc, mais c'est pas un tassement qui pourrait casser la tige ou casser les racines ou écraser la motte, quoi. C'est vraiment assez léger. Ouais.
Est-ce qu'à part le planton, on ajoute un engrais ou autre dans le trou avant de mettre le planton? Par exemple, j'ai lu que pour les tomates, on pouvait mettre des feuilles d'ortie au fond du trou, que c'était bon pour l'azote, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est bien juste. Alors, ce qu'il y a, il faut faire attention là-bas dessus parce qu'il y a, il y a plusieurs façons de travailler. Et puis, effectivement, on parle en général d'une poignée d'ortie. Il ne faut pas en mettre trop aussi parce que, semblerait-il, les gens qui exagèrent pourraient, avec cet azote, apporter un effet de croissance beaucoup trop fort, ce qui pourrait fragiliser aussi la plante dans les temps qui vont suivre sa reprise. Donc c'est une poignée d'ortie, pas plus. Et puis après, au niveau des engrais, ben, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut profiter peut-être des pans de son compost qu'on aura fait, si on ne l'a déjà pas incorporé au travail du sol. On va faire ça, après le régler avec un crochet pour l'incorporer un petit peu. Et après, ben, dans les engrais, ben, on va favoriser, je pense, plutôt ce qui est des engrais bio. Donc là, on a des pellets de fumier de poules, de bovins, on a du sang desséché, on a de la raclure de corne, qui sont des choses qui sont très performantes.
Que de précieux conseils de la part de Fabrice ce matin, comme avec chacun de nos professionnels tous les samedis matins dans les jardinières. On va continuer à parler des plantons d'ici quelques minutes et puis on répondra également aux questions de nos auditeurs.
Les jardinières.
Le samedi, vous vous réveillez en compagnie des jardinières. Jusqu'à 8h, notre professionnel répond à vos questions jardinage. Ce matin, nous sommes en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy.
Posez vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS en tapant jardin, un espace et votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou en remplissant le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission questions jardinières et vous pouvez même y joindre une photo histoire d'être le plus précis possible.
Et avant de répondre aux questions de nos auditeurs, on va revenir une dernière fois sur les plantons. On en a parlé plus précisément en première partie d'émission. Fabrice, il reste quand même à vous demander de nous parler un peu de l'arrosage de ces plantons, parce que ça reste quand même un des points les plus importants.
Ben, comme on l'aura vu avant à la plantation, ce qu'il faut faire attention, c'est mouiller légèrement ces plantons, bien arroser une fois qu'ils sont en terre pour que la terre aille tout partout se mettre bien en place autour de cette motte. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arroser tous les soirs pour remettre un petit peu ce planton sur pied après des chaleurs comme on a maintenant dans ces journées. Et puis autrement, veiller à une chose, c'est avoir un arrosage régulier. Donc toujours avoir peut-être le même point d'humidité au niveau des sols, pas besoin qu'ils soient détrempés. Non, mais laisser là-dessus ressuyer, dessécher un petit peu, mais que la couche du dessous soit toujours humide. Et là, on aura un bon développement des végétaux.
Et on arrose bien au pied du planton, pas les feuilles?
Alors, pour certaines plantes, ça va rien faire de mouiller le feuillage, mais pour d'autres, on aura des problèmes comme les cucurbitacées, comme les tomates, des choses comme ça. On pourrait très vite avoir des maladies qui se développent et puis réduire à néant sa culture, effectivement. Alors là, on va arroser que le pied du planton.
Donc Fabrice, si on vous comprend bien, il faut bien être attentif sur l'arrosage. Et est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose d'autre en attendant les premières récoltes? Qu'est-ce qu'il faut surveiller en particulier?
Ben, je crois que l'ennemi de tous, c'est le désherbage. Donc, pas se laisser envahir par la mauvaise herbe. Mais si on a un sarclage qui va avec un désherbage, on va aussi économiser un petit peu d'eau. Donc, on aura un jardin propre, on en profitera beaucoup, on aura beaucoup de plaisir d'y aller. Et ça, ce sera tout bénéf, je pense. Donc, si on suit toutes ces petites étapes, depuis le choix du planton jusqu'à la mise en terre, avec un arrosage régulier, et puis suivre ce désherbage, on n'aura que du plaisir.
Et un dernier conseil, Fabrice, pour réussir?
On peut s'amuser peut-être à avoir plus de plaisir peut-être en jouant avec les cultures pour avoir toujours quelque chose dans son potager du début à la fin de l'année. Et puis, pourquoi pas jouer avec les couleurs aussi. On peut avoir des légumes, par exemple des choux Bruxelles, on aurait l'habitude de prendre toujours les mêmes, mais il en existe aussi des violets qui sont très bons. Les choux pommes, c'est pareil, il y a les classiques, et puis il y a aussi les violets qui sont tout aussi bons. Donc, on pourrait s'amuser peut-être aussi avec les couleurs pour mettre un peu de la variété dans nos jardins, pour augmenter encore cet attrait.
Merci beaucoup Fabrice pour tous ces précieux conseils. Maintenant, vous savez comment faire, il y a toute la marche à suivre. Et puis si vous avez loupé le tout début de notre émission, et ben vous retrouverez tout ça en podcast dans la matinée. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On a reçu plein de questions de votre part durant cette semaine. On y répond dans quelques instants.
7h, 8h, Les Jardinières.
Les Jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On répond à vos questions. Raphaël, on va peut-être rappeler comment poser ces questions.
0 900 1 70 20 20, vous le faites par téléphone et vous posez votre question directement à notre professionnel. Ce matin, c'est Fabrice Rondet qui vous répondra avec son plus grand professionnalisme. Vous pouvez également le faire par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous envoyez ce message au 939 ou alors vous rendre sur notre site internet, il y a un formulaire qui vous attend.
Et vous pouvez y joindre des photos comme l'a fait Stéphanie Dulandron. Elle nous envoyait des photos de son laurier rose. Bonjour, j'ai acheté un laurier rose il y a environ 2 semaines. Et depuis qu'il est en pot, les feuilles deviennent jaunes et certaines tombent, d'autres pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il tienne et ne soit pas trop tard? Elle a déjà enlevé des feuilles jaunes, elle précise. Merci de votre réponse et bon week-end. Alors Fabrice, vous avez sous les yeux des photos de ce laurier rose.
Très joli.
Très joli, on voit des fleurs déjà et des fleurs et des feuilles un peu jaunes.
Alors ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'on a une plante qui est très belle, qui est bien fourni, bien garni en feuilles et en fleurs, une floraison prometteuse. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on a une plante comme ça pour arriver à cette qualité de plante, c'est que le producteur a mis toutes les choses du côté de la plante pour que ça se développe bien. Donc lumière, engrais, arrosage, toutes ces choses-là. On a un bon suivi. Et après, ben on peut avoir un choc de la plante pour qu'elle s'adapte, parce qu'on va la sortir de ses conditions idéales pour la remettre chez nous, puis elle devra s'acclimater à la situation dans laquelle on la met. Et puis, elle peut se retrouver avec une situation peut-être moins de lumière, ou moins, alors, une régularité dans l'arrosage un peu différente, ou alors avec aussi peut-être de l'arrosage avec pas de l'engrais tout le temps, la même chose, ou pas le même engrais, pas un engrais aussi complet. Donc, ce qu'on peut voir sur la photo, effectivement, c'est qu'on a une plante qui est peut-être un petit peu situé à l'ombre. Je ne sais pas à quel moment de la journée a été prise la photo, mais là, j'ai l'impression, moi, qu'on est dans une plante plutôt dans une situation mi-ombragée, alors que normalement, je pense qu'on pourrait la mettre dans une situation plutôt au soleil. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, si on prend ce point-là, on va tout de suite penser avec toutes les feuilles qu'elle a, si elle n'a pas assez de lumière, forcément, elle va faire une petite sélection. Et puis, elle va perdre des feuilles pour que la lumière puisse pénétrer partout dans la plante. Après, par rapport à ça, je ne sais pas si cette personne apporte un engrais aussi, mais ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un engrais spécial pour justement ce type de plantes qui font des fleurs. Et puis, mettre en tout cas une fois par semaine un petit peu d'engrais avec l'eau qu'elle va y apporter. Et les choses, en lui remettant un peu de lumière, tout ça devrait s'équilibrer.
Merci beaucoup Fabrice, comme le chantait Jennifer, ce laurier rose au soleil. Une autre question qui nous est arrivée de Stéphane Dunoirmont. Bonjour, depuis quelques jours j'ai des larves blanches sur des branches de mon frêne. Les feuilles en dessous ont l'air d'être mouillées alors que je n'ai pas arrosé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous avez également sous les yeux Fabrice une photo.
Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on parlait des pucerons tout à l'heure. On est dans une colonie en fait de larves de pucerons, tout simplement. Et puis ces gouttelettes qu'on voit sur le feuillage, c'est tout simplement ce qu'on appelle le miella. Donc le miella, c'est une sécrétion que fait le puceron adulte. Et puis ce miella, on le reconnaît très rapidement parce qu'il a une viscosité. C'est quelque chose qui va nourrir les colonies, mais qui va aussi nourrir les fourmis. C'est pour ça qu'on voit les fourmis faire des allers-retours sur les troncs des arbres. Et c'est aussi ça qui fait qu'on peut faire un bon miel de sapin. Donc dans des régions comme on a maintenant, avec des températures chaudes, du sec et pas trop de pluie, comme là, la pluie qu'on a eue cette nuit va laver un petit peu ces colonies, ce miel-là. Mais dans 2-3 jours, si on avait de nouveau du beau, on a de nouveau ce miel-là qui va revenir. Donc voilà un peu l'explication pour cette photo.
Est-ce que c'est dangereux pour l'arbre, ces colonies-là?
Ce qui va se passer, c'est si la colonie est très très importante, on peut avoir des branches qui se tordent. Si la colonie est un peu moins importante, on va avoir des feuilles qui, c'est un piqueur suceur le puceron, et sous l'action des piqûres de ce puceron, on va avoir des feuilles qui se roulent sur elles-mêmes. Donc après, tout dépend de la force de l'attaque, ça peut ralentir en végétation la plante. Mais si c'est une grande plante et tout, ça va la calmer un petit peu. On a des pousses qui vont un peu moins bien se développer, mais ça va redémarrer très rapidement derrière.
7h, 8h, les jardinières.
7h50 chez les jardinières, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Fabrice, on a encore une question pour vous, une question de Sophie de la Brévine qui nous dit « Bonjour, quelle est la saison idéale pour ouvrir un nouveau jardin potager dans un gazon, printemps ou automne ?» Et elle vous remercie d'avance pour votre réponse.
Alors moi, perso, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise saison parce que tout simplement, il faut s'adapter avec la nature. Donc, si l'époque qu'elle va choisir comme maintenant va lui permettre de mettre peut-être plus de légumes en place, en automne, si elle l'ouvre, elle devra laisser peut-être la terre se reposer, puis elle pourra peut-être éventuellement mettre quelques plantes pour des plantes d'hiver. Mais il y a aussi l'aspect... L'aspect peut être pratique par rapport au désherbage de la surface. Donc ça dépend toujours de la méthode de travail qu'elle veut choisir pour ça. Donc il faut désherber tout ça, détruire cette couche herbeuse, travailler bien la terre. Mais après, il faut juste adapter. En début de saison, on a vraiment jusqu'à juin, juillet, août, on a un panel de légumes assez important qu'on peut mettre en place.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, Jean-Pierre, si vous étiez...
Fabrice,
un grand fainéant du jardin et vous avez quand même envie de virer cette pelouse. Qu'est-ce que vous feriez? Alors, pour les fainéants. Hein,
ouais, je pense qu'un grand fainéant aurait la...
Irait à la... dans les grands magasins acheter ses légumes.
Pour le jardin oui, ou pour oui. Ouvrir un nouveau jardin?
Pour ouvrir un nouveau jardin.
Ouais, je pense que déjà, le premier truc qu'il ferait, c'est qu'il prendrait un herbicide total pour le mettre en place plutôt que de
coude. Ah, c'est radical, hein,
voilà, vous m'avez posé une question, donc j'y réponds. Donc, c'est déjà la chose que je ne ferais pas, mettre un herbicide dans mon jardin. Il y a d'autres moyens, certes plus laborieux, mais ils existent. Et puis après, c'est vrai que de mettre en place tous les plantons quand on n'est pas expérimenté, quand on n'a pas fait quelques années d'expérience pour démarrer les semis, les repiquages, les plantons, je pense qu'au début, il est plus sage quand même d'acheter pour couvrir ses arrières. Et puis après, gentiment, il y a les crescendo avec des cultures faciles. Et puis certains légumes sont beaucoup plus faciles à multiplier, à repiquer, ou c'est qu'on a des taux de réussite qui sont très importants que certains légumes qui sont très compliqués. Donc, effectivement, il faut faire ses expériences et puis aller avec un peu de facilité. Et puis après, au fur et à mesure des années, commencer de semer, de comprendre et puis de tout faire soi-même.
En même temps, Mylène, vous cherchez à nous le mettre de travers, notre Fabrice, en l'appelant Jean-Pierre. En
voilà,
même temps, attendiez-vous pas à une autre réponse plus que radicale?
Bon, Fabrice, cette fois c'est juste, il est presque l'heure de vous laisser filer, mais dites-nous, à part bien s'hydrater et porter un chapeau, on fait quoi au jardin ce week-end?
Ce qu'on va faire, on va continuer de planter ce jardin jusqu'à ce qu'il soit tout joli, tout rempli. Et puis après, on va veiller justement à ce désherbage et puis à porter l'eau d'une façon régulière pour que tout se développe bien.
Tout simplement, rien
tout
de
simplement.
Particulier.
Non, aussi simple que ça.
Toujours droit au but avec Fabrice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. On vous souhaite, Fabrice, un excellent week-end. On vous dit à très vite chez les jardinières.
Un bon week-end à tous également. Merci.
Merci Fabrice. La semaine prochaine, Katiou Racine, jardinière.
Jean-Pierre, non. Ah
non, Katiou. Arrêtez maintenant, ça suffit, vous sortez. Allez au jardin. C'est Katiou Racine qui répondra à nos questions et à vos questions. Vous pouvez les poser à tout moment en remplissant le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet « Questions aux jardinières » ou par SMS, vous tapez « Jardin, un espace » et vous envoyez tout ça au 939 ou alors vous attendez simplement samedi prochain pour nous appeler en direct. Bon week-end, Raphaël.
Bon week-end, Mylène, et profitez du soleil,
oui,
toutes et tous.
Sans trop se le faire taper sur la tête. Bon week-end.
Ça fait toujours du bien.
Et à samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.